1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment les hiérarchies de centres qui émergent et évoluent sous la contrainte de la proximité géographique peuvent être analysées avec des outils dits de fractales mis au point par des mathématiciens et des physiciens, ce qui nous permettra de rapprocher certaines dynamiques géographiques de celles des systèmes complexes qui sont analysés par beaucoup de disciplines aujourd'hui. En effet, la structure de l'espace géographique, telle qu'on la repère le plus souvent, est hiérarchisée et cette hiérarchie est produite par la disposition de centres et de périphéries qui est auto-similaire à différentes échelles, comme on peut l'apercevoir sur cette carte de la configuration des centres commerciaux, qui sont en outre différenciés par la nature des commerces et des services qu'ils proposent, à l'intérieur de l'Île-de-France et même avec un zoom sur la partie centrale de Paris. Donc ces propriétés de ressemblance des structures à différentes échelles, nous les avons également sur ces deux cartes de bâti urbain. Celle du haut correspond à la ville de Besançon, donc à une échelle très fine, nous avons ici tous les îlots construits. Et l'image du bas, c'est, vous reconnaissez la mer du Nord, bordant les Pays-Bas et la Belgique, sur une image du bâti urbain, des surfaces bâties restituées par le programme Corinne Landcover de l'Union européenne qui les définit de manière homogène pour tous les pays. Nous avons là typiquement ce modèle centre-périphérie qui est répliqué à toutes les échelles qu'on pourrait analyser à travers des maillages de plus en plus fins de cet espace géographique. La même configuration est observable sur la plupart des réseaux viaires, que l'on se situe comme ici dans un espace intra-urbain dans la ville de Besançon, ou bien à d'autres échelles où l'on va observer également une hiérarchie des différents canaux, des différentes voies de circulation et une organisation qui les fragmente et qui reproduit des carrefours d'importance variable à toutes les échelles. Pour analyser cette organisation fractale dans le cas des surfaces bâties, Marianne Guerrois a repris ici la carte des surfaces de Corinne Landcover autour de la ville de Lyon, analysée par des cercles de 1 km dans des couronnes de 1 km de large autour du centre. Et le graphique qui se trouve à droite représente la proportion de bâti urbain en pourcentage en fonction de la distance à partir du centre de Lyon. Je vous laisse regarder cette figure en plus gros plan. Nous examinerons le graphique du bas plus précisément dans une diapositive ultérieure. Ce qui apparaît sur cette image, c'est le fait que à partir du centre, vous avez une décroissance qui est d'abord extrêmement rapide de la proportion de surface bâtie, qui se traduit par une pente d'ajustement de la droite en rouge extrêmement forte. Mais ce contraste de valorisation par le bâti des zones situées à proximité du centre, eh bien, on le retrouve à un moindre degré, mais quand même existant, dans la périphérie, au-delà de 10 km, avec le périurbain qui est également différencié par les surfaces bâties, plus denses à proximité de l'agglomération et moins denses dans une périphérie plus lointaine. Ce même schéma est observable sur des villes différentes. Vous avez Toulouse en haut, Lyon que vous reconnaissez, et même Bielefeld, une ville allemande beaucoup plus fragmentée, comme on peut le voir sur cette carte de la surface bâtie. Donc c'est l'existence de ces gradients même nous fait suspecter une organisation de type fractal de ces surfaces bâties que l'on peut analyser à l'aide d'une courbe de fréquence cumulée de la présence des surfaces bâties. Et vous voyez que nous pouvons les ajuster très bien ici par deux droites, l'une qui correspond à la zone interne de l'agglomération dans un espace compris jusqu'à environ 10 km du centre, alors que la zone périurbaine correspond à un gradient moins fort, une autre dimension fractale. Comment est-ce qu'on estime ces dimensions fractales? Assez simplement, par une méthode de dénombrement sur une carte des zones qui sont bâties dans des maillages qu'on rend de plus en plus fins, et on représente les variations des cases ainsi dénombrées comme occupées par le bâti en fonction de la plus ou moins grande finesse du maillage qu'on repère par son côté, par la longueur L du carreau du carroyage. On procède à une estimation au moyen d'une équation transformée en logarithme pour permettre une régression linéaire simple, dont la pente va nous donner cette fameuse dimension fractale qui reflète le caractère plus ou moins fragmenté mais hiérarchisé de la structure étudiée. Sur ce tableau des valeurs observées pour les zones agglomérées du bâti dans une colonne appelée corps, le centre de ces noyaux urbains, et une colonne correspondant aux zones périphériques, nous avons mesuré ces dimensions fractales et vous voyez qu'à l'intérieur de l'agglomération, dans la zone bâtie en continuité, on a des dimensions fractales proches de 2. On aurait 2 pour une surface. La dimension mathématique d'une surface, c'est 2. Mais là, comme nous avons une structure fragmentée à l'intérieur, eh bien, cette dimension ne se rapproche pas tout à fait de celle d'une droite qui aurait dimension 1, mais vous le voyez, est plus petite que 2 dans pratiquement tous les cas, donc montrant cette propension de les surfaces bâties à se fragmenter au fur et à mesure qu'on s'éloigne des positions les plus centrales qui sont complètement urbanisées. Dans la périphérie, dans la zone périurbaine, nous avons quelque chose qui est encore beaucoup plus fragmenté, qui se rapproche d'une poussière de Cantor en mathématiques. Et vous le voyez, qui donne lieu, dans la plupart des villes européennes, à des estimations de la dimension fractale qui sont nettement inférieures à 1. Donc, nous avons ainsi identifié deux formes d'urbanisation que nous pouvons bien entendu rapprocher de nos vitesses de circulation, de nos formes d'espace-temps très différenciées entre le cœur d'une ville et ses périphéries desservies en principe par des voies plus rapides. Nous avons voulu chercher à savoir qui allait gagner du gradient de l'agglomération ou du gradient périurbain, puisqu'on parlait beaucoup à cette époque de dilution des villes et d'étalement et de tendance à la périurbanisation très forte. Et à partir des images Corinne Landcover entre 1990 et 2000, nous avons pu constater pour des villes de taille différente repérées sur le graphique par des couleurs différentes qui correspondent à des diamètres de la zone urbanisée de 40 à 60 km. Et nous avons en ordonnée de ce graphique le taux de variation de la surface bâtie en fonction de la distance au centre en abscisse. Et vous le voyez, les plus fortes variations, là où l'urbanisation est la plus intense, eh bien, ça se situe exactement aux franges de l'agglomération. C'est donc cette forme d'urbanisation compacte qui prend le pas sur l'urbanisation en périphérie en termes de renforcement de la dimension des villes. Et donc, nous avons une indication que sans doute, le gradient urbain représenté par la dimension fractale la plus importante est la structure qui s'impose et qui gouverne l'évolution de l'ensemble. Pour nous rapprocher des travaux d'architecture, nous avons également des analyses fractales de parcellaires urbains, comme celle réalisée ici par Serge Sala sur une partie de Manhattan. Et en partant d'un parcellaire extrêmement orthogonal, nous n'avons pas un remplissage complet de l'espace malgré tout, et donc une dimension fractale qui s'élève à 0,6, Alors que pour le même genre d'analyse sur un parcellaire parisien, vous reconnaissez la place de l'Étoile, mais on aurait le même résultat même sur les rues un peu plus médiévales du quartier Mouffetard. Eh bien, Serge Sala a trouvé une dimension de l'ordre de 0,5 qui montre une tendance à la hiérarchie des îlots et du bâti parisien dans son ensemble, plus forte pour une ville de type européen que pour une ville de type américain. Donc voilà comment nous pouvons rapprocher les analyses spatiales des objets géographiques de celles d'autres systèmes complexes. Et nous avons une des voies pour essayer de mieux comprendre leur formation parce que grâce à ces instruments, nous pouvons implémenter dans des modèles de simulation des règles d'évolution et les comparer à nos observations.